Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Haloud Mouni.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Deux principaux sujets au menu de ce forum de la presse, le rapport de l'ONU qui accuse certains responsables de la CMA et du GATCHA d'être impliqués dans des actes de terrorisme et de trafic de migrants et de drogue. Également, l'élection présidentielle, les résultats qui sont contestés par l'opposition et les dates des élections législatives qui sont connues depuis mardi passé. Comme invité de ce grand dialogue, nous avons Makan Konaté de la radio IKA FM, Bruno Segbedji de Mali Horizon et Paul Ben, journaliste indépendant au téléphone. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue.
Un grand dialogue.
Nous allons commencer par le rapport de l'ONU qui accuse, comme je l'avais dit, certains responsables de la CMA et du GATCHA. Écoutons d'abord ce reportage.
Pour les responsables de la coalition du peuple de la Zawar CPA, mouvement cité dans le rapport, cette déclaration discrédite les efforts inlassables que leur organisation effectue dans le domaine du maintien de la paix, de la sécurité et de la réconciliation nationale. Selon T, les experts des Nations Unies ont produit leurs documents sur la base des informations contraires à la réalité sur le terrain. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, président de la CPA.
Cela est faux et même impossible. Et ça me fait même rire. La CPA, c'est l'un des rares mouvements qui a transporté même souvent des éléments des femmes, des gendarmes qui amènent des urnes avec de l'administration dans les chefs de cette. Comme un mouvement politico-militaire qui est né de la souffrance de nos populations et qui est né pour empêcher à nos populations d'être embarquées dans des agendas de criminalité. La CPA, c'est l'un des rares mouvements qui n'a pas quelqu'un dans le narcotrafic, dans la drogue, dans la criminalité, dans le trafic d'humains, et qui n'a pas une histoire dans le terrorisme.
Du côté de la CMA, ce sont certains membres du Haut Conseil pour l'unité de la Zawar ACIA qui sont accusés dans le rapport de contrôler le passage des migrants à Tel Handak, localité de la région de Kidal, où, selon les experts de l'ONU, ils détiennent des femmes et les exploitent sexuellement. Pour Mohamed Ould Mahmoud, porte-parole de la CMA, l'ONU a produit un document en matière basé sur des inepties et des rumeurs.
Ce qui est certain et qui reste constant, personne n'a jamais été impliqué dans quoi que ce soit par rapport à ces activités illicites.
Donc vous rejetez catégoriquement ces accusations des Nations Unies?
En bloc. Et d'abord, les questions de viol ne font pas partie de la culture de nos maîtres. Religieusement, culturellement, socialement, on ne fait pas s'adonner à de telles activités.
Le groupe armé GATCHA, dont certains membres sont également cités par les rapports dans le trafic de drogue et de migrants, n'a pas souhaité réagir.
Alors, Bruno Segbedji, vous venez d'écouter ce reportage. Que pensez-vous de cette situation?
Bon, c'est un rapport d'un groupe d'experts de l'ONU qui accuse nommément certaines personnalités de ces mouvements armés comme commettant des actes terroristes, notamment des cas de transport de migrants, de trafic de drogue. Moi, je crois que c'est pas nouveau. Hein, c'est pas nouveau. On a toujours eu le problème de déceler la démarcation nette entre les mouvements armés signataires, c'est comme ça qu'on les désigne finalement, et les terroristes. Depuis le début de la crise, la cloison était plus ou moins floue entre ces groupes qui revendiquaient l'indépendance du Nord ou bien ces mouvements qui revendiquaient le djihad et des terroristes. Parce que c'est comme une matrice commune de départ et puis finalement les gens se sont plus ou moins éloignés du terrorisme parce que tout le monde sait que le terrorisme n'est accueilli devant aucune table sur le plan mondial. Donc c'est pas nouveau. C'est vrai que dans le reportage, ceux qui sont interrogés, certains de ceux qui sont accusés ont réagi, ont démenti, ont rejeté en bloc ce rapport. Mais seulement, je ne vois pas, ils n'arrivent pas, ces gens-là ne prouvent pas non plus aucune accointance entre eux et les terroristes. Soit ils les accompagnent ou ils laissent faire. Il y a un qui disait qu'ils ont transporté même les urnes gouvernementales pour favoriser les élections, mais il se trouve que aux yeux de la communauté internationale, aux yeux de l'opinion en général, la majorité des observateurs quand même, il y a trop de liens, il y a trop de proximité, même la zone géographique opérationnelle, c'est toujours plus ou moins les mêmes, c'est toujours plus ou moins les cousins lointains, au point qu'il faut d'autres éléments pour nous prouver véritablement que ces gens-là ne sont pas au moins proches des actes terroristes, des actes de trafic de migrants et autres.
D'accord. Alors, Makan Konaté, vous, qu'en pensez-vous?
Oui, moi, je m'intéresse plutôt à la méthodologie utilisée par le groupe des experts de l'ONU. Est-ce qu'ils sont allés sur le terrain? Est-ce qu'ils ont discuté avec les différents groupes armés? Comment ont-ils procédé? C'est la question que je me pose. Ou bien est-ce qu'ils sont restés quelque part pour téléphoner ou demander des informations? Comment ont-ils procédé? Parce que dans le rapport, on ne le dit pas. En tout cas, je n'ai pas eu accès à ces rapports. Mais chaque fois que j'entends des commentaires là-dessus, on ne parle pas de la méthodologie utilisée. Hein? Deuxièmement, je dirais que c'est un ouf de soulagement pour les autorités maliennes qui ont été très longtemps accusées d'avoir mis du temps pour la mise en application des accords d'Alger. Très généralement, on disait que ce sont les autorités maliennes qui sont responsables de la lenteur observée dans la mise en application des accords. Or, ce rapport vient de prouver qu'il y a plusieurs mouvements armés qui sont à la base du blocage de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Et ça, c'est très important.
Mais dans ce rapport, il est également dit que certains membres des forces armées maliennes protégeraient certains responsables de ces groupes armés.
Et si tel est le cas, il faut sanctionner. Si tel est le cas, il faut sanctionner et aller vite dans la mise en application des accords d'Alger. S'il est vrai qu'il y a des forces armées maliennes, une partie, sinon quelques éléments qui sont impliqués dans cela, il faut sanctionner. Mais le ouf de soulagement, c'est que le Mali, c'est-à-dire la partie malienne, les autorités maliennes ne sont pas les seules responsables de la lenteur de la mise en œuvre de ces accords d'Alger-là. Ça, c'est important. Parce que dans un premier temps, on faisait croire que ce sont les autorités maliennes qui étaient lentes.
D'accord. Mais vous-même, à travers vos constats, est-ce que vous pensez qu'il y a même un doute par rapport à cette liaison, à ce lien entre les groupes armés et ces terroristes?
Les groupes armés et les terroristes.
Mm-hmm. Les groupes armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation et les terroristes. Sur le terrain, est-ce que vous voyez un lien entre eux?
Vous savez, le Nord est vaste. Le Nord est compliqué. Vous avez parlé de trafic de drogue. Vous avez parlé, du moins concernant le rapport, vous avez parlé également de trafic d'êtres humains. Il y a plusieurs sortes de trafic et ça rapporte de l'argent, beaucoup d'argent. Donc, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de lien. Il est fort possible qu'il y ait des liens, surtout que quand on sait qu'au finish, il y a de l'argent. Donc, une certaine collaboration entre mouvements armés et terroristes est possible.
D'accord. Alors, Bruno Segbedji, si c'est possible, à quoi peut-on s'attendre?
Bon, on a comme l'impression que, avant d'arriver à ce point, Makan s'interrogeait tout de suite de la méthodologie utilisée pour le rapport, sans douter de la pertinence du rapport, on peut au moins avoir la présomption que quand on parle de groupe d'experts des Nations Unies, c'est certainement des gens, à défaut d'être sur le terrain, qui ont certainement besoin des conseils, des analyses, des éléments de la MINUSMA, de Barkhane, qui eux au moins sont sur le terrain ou bien ont des antennes sur le terrain. Ça, je voudrais faire observer ça. L'autre aspect, c'est que à un moment donné, avec l'enlisement, les difficultés de mise en œuvre de l'accord, il est apparu comme si l'ONU veut véritablement creuser en profondeur pour savoir à quoi est lié tout cela. Parce que le gouvernement clame quand même sa volonté ferme d'aller à la mise en œuvre, mais il y a un certain nombre d'embûches. Donc c'est à l'issue de cette problématique-là que l'ONU a pu découvrir entre guillemets, parce que moi je trouve que c'est pas nouveau. Maintenant, votre question, c'est à quoi peut-on s'attendre? Il y a eu une forme d'impunité qu'on a notée. L'ONU a toujours brandi des sanctions. Il y a eu un régime de sanctions. Ce régime vient d'être prolongé. Mais la mise à exécution, le gel des avoirs, l'interdiction de voyage n'ont pas produit leur effet. Enfin, c'est plus ou moins des épées de Damoclès qu'on brandit, mais ça n'a jamais empêché les gens d'être à l'aise, les leaders, du moins ceux qui sont soupçonnés, ceux dont les noms sont mentionnés. Donc, il faut véritablement briser, aller au-delà de cette menace et sanctionner, que des gens sentent que s'ils constituent des obstacles à la mise en œuvre de cet accord, le seul outil pour aller à la paix, ils peuvent être sanctionnés. Et voici des sanctions qui tomberaient pour des uns et des autres dont les noms sont cités, dont l'ONU pourrait apporter des preuves plus subséquentes, comme Makan l'a dit. Et il y a des preuves palpables comme quoi ils ont été impliqués dans tel ou tel acte de trafic de drogue, de terrorisme, de détournement de mineurs, etc. Là, quand on va sanctionner, je crois que ça pourrait produire son effet assez dissuasif. Donc, à quoi on peut s'attendre? C'est à ce que des sanctions tombent, véritablement.
Est-ce que ça ne pose pas la question du désarmement, du processus de DDR également? Pourquoi les groupes armés ne sont toujours pas désarmés?
Tout cela est lié. Si c'est des acteurs qui trouvent leur compte dans les trafics, les trafiquants, on comprend que c'est quasiment leur équipement que d'être armé. Donc, et le processus de mise en œuvre de l'accord et son étape cruciale qui est le désarmement, tout cela, c'est en retard. Et donc, l'AMINUSMA, Barkhane et les autres dispositifs de l'accord pourraient être accélérés et les gens-là devraient être désarmés depuis.
D'accord. Alors, Paul Ben est au téléphone. Paul Ben, vous êtes journaliste indépendant, vous êtes à Menaka. Comment la population de Menaka perçoit cette information concernant le rapport de l'ONU qui accuse certains responsables des groupes armés?
Bonsoir à Sylvie Tamani et aux auditeurs. L'information est tombée ici à Menaka comme un peu partout au Mali avec beaucoup de mois de stupéfaction. Les réactions sont timides pour l'instant parce que, comme je le dis toujours, Menaka a un autre agenda, a d'autres soucis, surtout le souci sécuritaire. On essaye depuis 2016 de faire les patrouilles conjointes avec tous les groupes armés. Au départ, il y avait certains qui étaient réticents. Maintenant, tout le monde met la main à la pâte, notamment la CMA, la plateforme et le MSA. Bon, certains responsables qui sont cités dans le rapport sont de la région de Menaka, ou certains groupes armés qui sont cités sont de la région de Menaka et les gens sont un peu attentistes, on attend les réactions peut-être à vif. Pour le moment, je crois que c'est un autre groupe armé qui est basé un peu à Gao qui a réagi. Ici, chez nous, à Menaka, les gens sont vraiment... Ça cause, ça échange, ça parle. Mais ce qui est dans l'actualité ici, c'est les récentes opérations que Barkhane a menées au niveau de Infocaretan, c'est-à-dire vers la frontière.
D'accord, on va parler de ça tout de suite. Mais déjà, vous êtes à Menaka. Est-ce que vous avez constaté un lien entre les groupes armés et les terroristes?
Bon, ça c'est, ce n'est pas quelque chose qu'on peut constater de visu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir. En tant que connaisseur, en tant qu'observateur, la chose, on peut comprendre, on peut savoir, mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez voir de façon visible. Par exemple, on le dit dans l'expression populaire que, par exemple, la CMA a des liens avec les groupes terroristes. Mais ici, à Menaka, vous ne pouvez pas le voir de façon nette, parce que la CMA, elle participe, par exemple, patrouille conjointe, c'est-à-dire avec la plateforme, le MSA et les FAMA. Au côté sud-ouest de la ville de Menaka, il y a un checkpoint et ce checkpoint est gardé par la CMA, la plateforme et le MSA. Quand il y a des sorties des délégations administratives à l'intérieur de la région, tous les groupes armés se donnent la main pour la sécurisation. L'élection présidentielle qui vient de se terminer a été sécurisée en grande partie par tous les groupes armés. Donc vous voyez un peu, à Menaka, on ne peut pas clairement définir la chose comme peut-être c'est le cas à Kidal, où la CIMA est vraiment visible avec certaines personnes qui ne sont pas vraiment fréquentables.
D'accord, Makan Konaté. Alors, si ce rapport, si le contenu de ce rapport était exact, pourquoi c'est des experts des Nations Unies qui le disent et pas le gouvernement malien qui arrive à découvrir cette situation?
Le gouvernement malien a fait un communiqué. Le gouvernement malien attend d'abord de recevoir le rapport, de l'analyser, et avant de se prononcer là-dessus. Donc, nous attendons à présent les propositions du gouvernement, sinon la réflexion faite par le gouvernement concernant ce rapport.
Mais le gouvernement ne peut-il pas lui-même mener une enquête par rapport à cette situation?
C'est bien possible. C'est bien possible que le gouvernement mène une enquête par rapport au rapport ou bien par rapport à cette situation,
le lien entre les groupes armés et les terroristes et
Ça va être difficile.
Pourquoi?
Ça va être difficile. Parce que moi, dans mon analyse, je mets les deux dans un même panier. Terroriste, mouvement armé, je les mets dans un même panier. On ne sait pas qui est terroriste, qui ne l'est pas. Or, il semble que ces deux groupes travaillent ensemble. Donc, de terroristes, ils peuvent devenir un mouvement armé. Et de mouvement armé, ils peuvent devenir terroristes. Donc, ce sont les mêmes. Pour moi, ce sont des faiseurs de mal. Et il faut les mettre dans les mêmes paliers.
Bruno, est-ce que vous pensez la même chose?
Oui, d'abord, si même si le gouvernement avait les moyens de faire des investigations et produire un tel rapport, ce rapport n'aurait pas le même poids, le même intérêt. Parce que le gouvernement, dans la situation, est considéré comme parti. Ne l'oublions pas. Dans l'accord, le gouvernement est parti, est une partie. Donc, ça perdrait tout de suite, enfin, le rapport qui serait gouvernemental souffrirait de manque d'indépendance. C'est le procès qu'on lui ferait tout de suite. En tout cas, que les personnes accusées éventuellement, si c'était le cas, c'est-à-dire les Mohamed Ndoum Diko, les groupes armés qui verraient le rapport gouvernemental accuser les uns et les autres de leur leadership comme étant impliqués dans des actes terroristes, ils diront ben, c'est de bonne guerre parce que c'est une partie adverse quand bien même ils sont dans le même cheminement pour la mise en œuvre de l'accord. Donc, il n'y a pas d'intérêt à ce que le gouvernement fasse cette investigation. De deux, le gouvernement n'a pas les moyens pour le faire. Ne l'oublions pas, ça c'est tout le monde sait que le gouvernement, notre gouvernement aujourd'hui, n'a pas accès à certaines zones, quoi qu'on dise. Donc, comment y déploierait-il des enquêteurs et de quelles compétences, je ne doute pas, de quelle expertise, parce qu'on parle d'experts, de quelle expertise en moyens satellitaires, en investigation, mettre les gens sur écoute, etc., pour détecter les accointances, les liens éventuels. Donc le gouvernement ne devrait plus penser à aller sur ce chantier. Maintenant, moi je crois, c'est vrai, on n'a pas encore la réaction du gouvernement, mais je crois que le gouvernement devrait penser la même chose depuis, parce que on a toujours su que depuis le début de la crise, c'était à travers des attaques terroristes. C'est petit à petit que la revendication sécessionniste s'est mise en branle avec le MNLA, et finalement certains se sont séparés en parlant de djihad, etc. Donc, je ne sais pas quel sera, je n'anticipe pas, mais je crois que le gouvernement se verrait que l'ONU n'a fait que nous déculpabiliser, parce que le gouvernement trouve, à travers ce rapport, voilà, moi j'ai la bonne foi de l'appliquer, voilà ce qui nous bloquait.
D'accord. Alors, Paul Ben, est-ce que vous pensez comme Makan que les terroristes et les groupes armés sont les mêmes?
Je ne vais pas aller généraliser la chose jusqu'à ce point, hein, comme Makan, parce que bon, j'ai la chance quand même d'être sur le terrain et de pouvoir faire un peu la différence, de faire la différence entre terroristes et groupes armés. Je parle spécifiquement de la région dans laquelle je suis, c'est-à-dire Menaka, où nous avons une force présente
des groupes terroristes et où nous avons, disons, plus de groupes armés que les autres, parce que les autres, c'est la CMA, la plateforme, mais nous avons le MSA ici.
D'accord. Amenaka, quelle est la différence entre un groupe armé signataire de l'accord pour la paix et un terroriste? Puisque Macan pense qu'ils sont les mêmes.
Voilà, j'en venais tout de suite. Nous, par exemple, ici à Menaka, on a constaté au mois de mars dernier un large mouvement des populations qui ne voulaient pas se mêler aux terroristes. Et la zone où les terroristes sont vraiment basés, on la connaît. Ils sont, c'est là-bas où Barkhane a bombardé en début de semaine. On sait très bien où ils sont. Maintenant, aujourd'hui, dans la région de Menaka, on demande à tous les groupes armés, parce que les terroristes, c'est aussi des groupes armés, on demande aux groupes armés de venir lutter contre le terrorisme, participer à la sécurisation. Le problème qu'on a à Menaka, justement, c'est ces terroristes qui sont en dehors. C'est eux qui essayent de faire des incursions et ils sont capables aussi bien de combattre contre l'armée et contre les groupes armés signataires et non signataires. Parce que nous avons aussi un groupe armé qui n'est pas signataire de l'accord, mais qui œuvre quand même pour la sécurité, la cohésion sociale, c'est-à-dire le MSA. On a le MSA 1 et le MSA. Nous avons ça, cet aspect ici à Menaka. Et les gens qui ne sont vraiment ni pour le développement, ni pour la sécurité, ni pour la cohésion sociale, ça c'est les terroristes. Et on sait où ils sont, on sait qui ils sont. Ils ont peut-être dans les groupes armés ou en ville, des complices, des complicités, ça on ne peut pas le nier, mais ils se démarquent de façon nette avec les groupes armés.
D'accord,
Makan
Konaté, vu que les groupes armés qui sont signataires se sont déjà engagés pour la paix au Mali et ce n'est pas le cas avec les terroristes, comment vous pouvez faire une comparaison entre les deux?
Entre les groupes armés et...
Oui, vu que les groupes armés déjà se sont engagés pour la paix dans le pays, alors que ce n'est pas le cas avec les terroristes. Mais vous pensez tout de même qu'ils sont les mêmes?
Je maintiens ma position. Vous savez, ces gens-là, ils sont...
Pourquoi vous pensez qu'ils sont
les mêmes? Ils communiquent entre eux. Ils communiquent entre eux. Certains se font terroristes, d'autres se font mouvements armés. Mais en réalité, ces deux groupes, ces différents groupes-là, communiquent entre eux. Ils savent réellement ce qui se passe. Vous allez vous occuper de ça, nous allons nous occuper de ça, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y a une complicité étroite entre ces deux groupes, entre les terroristes et les mouvements armés. Je suis terroriste aujourd'hui, demain je peux devenir un membre d'un mouvement armé. Donc, et puis j'ai toujours dit, le finish de cette affaire-là, c'est que ces gens ils ne savent pas travailler, ils ne connaissent que le combat. Ils ne connaissent que le combat, la terreur. Et c'est la raison pour laquelle ils ont pris les armes. Vous voyez? Donc, et au finish de tout ça, c'est quoi? C'est l'argent. C'est pourquoi il y a le trafic de drogue, c'est pourquoi il y a le trafic humain. Et pour souvent assouvir leur désir sexuel, ils violent. Les pauvres femmes, etc. C'est leur vie. Ou bien ils vont trouver des bergers, ils prennent leurs animaux. C'est pas sérieux.
D'accord.
Donc tout ce qui se passe au Nord aujourd'hui a une connotation financière.
D'accord. Alors, Bruno Segbedji, le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'un an le régime de sanctions au Mali. Vous pensez que ce régime de sanctions n'est pas celui qu'il nous faut? Alors, quel type de sanctions faut-il, puisque vous pensez que limiter les voyages et autres, les déplacements, n'est pas suffisant?
Ces sanctions ne sont pas suffisantes parce que, d'abord, on n'a pas... je peux me tromper, on n'a pas assisté à la mise à exécution de ces sanctions concrètement. Je n'ai pas encore vu des ex-chefs rebelles, comme on les appelle, voir leur compte gelé, interdit de voyage. Je n'ai pas encore, c'est possible, mais je n'ai pas encore vu ça. C'est des gens qui ont pignon sur rue dans les hôtels en Occident et ailleurs. Donc, la prolongation de ce régime de sanctions devrait viser à concrétiser d'abord qu'il y ait des cas concrets où des gens, parce que dénoncés dans des rapports, parce que à travers une procédure d'enquête et investigation concrète, on a établi noir sur blanc des preuves de leur implication dans des actes terroristes et dans des actes de blocage, de sabotage du processus de mise en œuvre de l'accord, que ces gens-là soient frappés par des mandats d'arrêt ou qu'on sente que les sanctions sont en œuvre véritablement. C'est après cela que ça pourrait être étendu pour un an, pour deux ans, et là, certainement qu'on ressentirait les effets quand les gens sauront qu'ils sont sous contrôle international et à moindre faits et gestes, si on dénonce une complicité quelconque, comme Magan le disait tout de suite, si on établit une complicité quelconque entre eux et des jeunes kamikazes qui se seraient éclatés avec des explosifs, des ceintures explosives, etc., qu'on les sanctionne, qu'on les interdise d'être à Paris, d'être à Washington, etc., ça devrait produire nécessairement une réduction de ces actes. Donc, la prolonger sur la durée, c'est bien, mais criminaliser davantage, serrer les taux davantage pour qu'on voit des gens sanctionnés, véritablement.
D'accord. Dire, 30 secondes, allez-y.
Oui, 30 secondes. Je voudrais dire que, c'est-à-dire, la solution au niveau de cette crise-là au Nord, c'est qu'il faut mater. C'est la seule solution.
Mater, c'est-à-dire
il faut faire la guerre. Parce que ce qui vous tue à longueur de journée, il ne se passe pas une semaine sans que une grenade explose par là, sans qu'il y ait des attaques terroristes par-ci, par-là. Il faut aller droit.
Donc vous pensez qu'un accord n'est pas la solution?
Non. C'est-à-dire le gouvernement doit chercher les moyens. Les moyens de guerre, en collaboration avec l'AMINUSMA et Barkhane. Il faut mater et il faut dissoudre tous ces mouvements-là si vraiment on veut qu'il y ait une paix réelle au nord du Mali.
D'accord, nous allons aborder le deuxième sujet de ce forum de la presse. Il s'agit bien sûr des élections, contestation des résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle du côté de l'opposition. Au même moment, les dates des législatives sont annoncées. On va écouter ce reportage d'abord.
3 mois après les élections présidentielles, les Maliens seront de nouveau aux urnes le 28 octobre prochain pour élire les députés. L'annonce a été faite ce mardi par le Conseil des ministres alors que des mouvements de contestation des résultats de la présidentielle se poursuivent. Ces résultats ont donné vainqueur le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Pour la majorité présidentielle, ces législatives sont bien tenables. Mamadou Camara, membre de la coalition Ensemble pour le Mali.
Je pense que ces élections sont tenables dans la mesure où nous venons d'organiser une élection présidentielle qui s'est déroulée dans de bonnes conditions. Je pense que la machine électorale a été éprouvée. Les différents acteurs qui organisent l'élection, à savoir la CENI, la DGE, le ministère de l'administration territoriale et les partis politiques qui sont des parties prenantes, ont eu l'occasion de se roder sur le terrain et donc aucun problème pour la tenue de ces élections. Ce n'est pas l'opposition qui conteste les résultats. Il y a un candidat qui conteste les résultats. L'ensemble des candidats, la grande majorité des candidats à l'élection. Et je pense que ceux qui refusent les résultats de la présidentielle ont aussi tout intérêt à le faire.
L'annonce des dates pour les législatives n'est pas rassurante selon certains observateurs. Pour le sociologue Ali Tungara, le gouvernement devrait s'employer à calmer les esprits.
Je crois que fixer des dates pour les élections législatives ne rassure pas. Le Mali ne se résume pas à un système. Nous devons tenir compte des sensibilités aujourd'hui. Lesquelles sensibilités font que les esprits sont inquiets? Et les inquiétudes sont également légitimes. Donc il me paraît quand même imprudent, il me paraît à la limite insensé de procéder à la fixation des dates des élections législatives dans un climat aussi suspicieux.
L'élection présidentielle n'avait pas pu se tenir dans plusieurs localités du pays à cause de l'insécurité. Les législatives seront-elles confrontées au même problème? Les dates annoncées seront-elles maintenues? Les partis contestataires vont-elles y participer? Des questions qui restent pour le moment sans réponse.
Beaucoup de questions. Alors, cette question à vous, Makan Konaté. Le 4 septembre, 2 investitures qui sont annoncées, les résultats qui sont contestés. Que pensez-vous de cette situation?
Moi, ça me fait rire. Je suis légaliste. Je suis légaliste. Vous savez, après les événements de mars 91, où nous étions au niveau de l'Association des élèves étudiants du Mali, nous avons participé à la conférence nationale. Cette conférence nationale a apporté des modifications qui ont été appréciées par l'ensemble des acteurs politiques. Et tous sont sortis pour dire que vraiment, Nous avons une constitution qui a pris en compte nos préoccupations. ATT a été élu avec cette constitution. Et Alpha Omar Konaré a été élu avec cette constitution. Ibeka a été élu pendant son premier mandat avec cette constitution qui dit que c'est la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats officiels. Et ce travail a été fait par des hommes et des femmes, neuf sages reconnus, qui ont proclamé ces résultats-là. Et ils ont proclamé le président Ibeka vainqueur. Mais je ne comprends pas pourquoi aller à l'encontre maintenant d'une décision rendue par une cour constitutionnelle du Mali.
Pourquoi, Bruno ?
Bon, j'observe d'abord que vous aviez dit deux investitures prévues le 4 septembre.
Selon le niveau d'information où moi je suis, il n'y a pas deux investitures prévues. Je peux me tromper.
L'opposition a quand même annoncé que leur candidat sera investi aussi le 4.
Est-ce que c'est des voix officielles ? Bon, le problème n'est pas là. Moi, je crois avoir entendu des jeunes militants sympathisants de l'opposition le dire. Mais je crois en journaliste, nous ne devons pas prendre ça comme voie officielle. Le chef de file, le principal contestataire, a eu l'occasion d'être face à la presse. Je ne l'ai jamais entendu dire qu'il y a une cérémonie d'investiture pour être président de la République de Soumaïla Cissé le 4 septembre.
Mais donc, certains de ses porte-parole l'ont annoncé.
OK. Maintenant, pour rebondir un peu à la contestation, il y a ce qu'on appelle le juridisme, c'est effectivement une décision sans appel, c'est-à-dire les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle. Mais sur le terrain politique, après le droit, il y a la voie politique. Donc, moi, je ne crois pas qu'on puisse dénier aux gens la capacité ou le droit de contester. En plus du fait que le texte, le dispositif électoral dit que c'est la Cour constitutionnelle rend son arrêt et puis c'est définitif, il n'y a pas d'appel. Les gens peuvent contester. Maintenant, est-ce que c'est dans le cadre républicain, est-ce qu'il y a eu casse, est-ce que les marches aussi sont prévues par la même constitution qui prévoit la Cour constitutionnelle? C'est-à-dire que dans la constitution malienne, il est dit que lorsque le citoyen n'est pas d'accord, il peut manifester, le droit de manifester. Maintenant, ce à quoi ça devrait aboutir, c'est la solution politique. Il y a le droit, mais la solution politique. Ça peut être quoi ? Ça peut être, tout le monde a senti que le chef de l'État, le président réélu, a dit « je tends la main ». Il ne devrait pas tendre la main si nous nous en tenons au juridisme pur. Il ne devrait pas tendre la main à celui qui... Donc s'il tend la main, je crois qu'il doit avoir des actes d'accompagnement de cette main tendue pour qu'il y ait la calmie, pour qu'il y ait la paix sociale. Et comme je le dis, je persiste ici, je ne crois pas qu'il y aurait investiture de Soumaïla Cissé comme président de la République. C'est peut-être un bluff. Moi, en tout cas, j'ai approché certains de ses principaux lieutenants qui disent que ce n'est pas au programme. Ça se dit, la rumeur publique, c'est peut-être aussi un moyen de pression à ce que des procédures politiques soient mises en œuvre et puis un gouvernement peut-être d'union ou bien de partage ou bien de consensus pour que la tension baisse, pour qu'il y ait la paix sociale.
D'accord. Paul Ben, au nord du pays, qu'avez-vous observé concernant ces contestations?
Bon, au nord du pays, vous savez, la dernière fois où la marche a été organisée, j'ai vu les images de Gao, de Tombouctou, d'un peu partout au Mali, de Bamako. Logiquement, ici à Ménaka, il n'y a pas eu de marche. Parce que la veille, on a été informé que l'UAD voulait projeter une marche. Bon, on a demandé si la marche était autorisée. On a dit que la marche n'est pas autorisée. Donc, les forces de défense et de sécurité ont fait leur boulot, quoi. Donc, il n'y a pas eu de marche. Il n'y a pas eu de heure, il n'y a pas eu de marche. À part cela, Ménaka a voté largement pour Ibeka, mais je ne vois pas un brin de contestation commencer ici. Mais on suit les événements de Bamako, comme tout le monde. On suit les événements de Bamako, ça se discute, mais tout le monde a le langage de l'apaisement, du calme. de dire que vraiment on ne veut plus les troubles qu'on a eu en 2012, qu'on ne veut plus les avoir. Maintenant, je rejoins un peu Bruno dans sa réflexion qui dit que de façon officielle, on n'a pas entendu qu'il y a une deuxième investiture le 4 septembre, de façon officielle. Je connais les militants de l'UAB qui sont ici à Menaka et avec qui j'ai échangé. Bon, ils me disent que ça, c'est les frustrations politiciennes. Hein. Mais évidemment, il n'y a pas une loi officielle. Et quand on dit que les porte-parole de Soumaïla Cissé l'ont dit, bon, moi, je vais rappeler seulement que lors du deuxième tour, on a vu des candidats de l'opposition qui n'ont pas donné de mot d'ordre de vote, mais on a vu que leurs porte-parole ont organisé des rencontres publiques pour dire de voter IBK. Donc, vous voyez, il y a une dissonance dans les camps de l'opposition, dans certains partis de l'opposition depuis longtemps. Mais je crois qu'officiellement, comme Bruno l'a dit, on n'a pas enregistré le deuxième investiture.
D'accord. Mais face à cette situation, est-ce qu'on peut s'attendre à un gouvernement d'union nationale?
Bon, écoutez, IBK a tendu la main. Il a tendu la main à toutes les filles, à tous les fils du pays. Je sais que politiquement, ça va être difficile parce que la pilule est très amère, mais très difficile à avaler. L'opposition pensait... Bon, l'opposition, je parle de l'opposition. L'opposition pensait cette fois-ci que c'était son tour, mais elle a été fissurée dès le verdict du premier tour. On l'a vu, il y a beaucoup de gens qui ont lâché Soumis en cours de route. Et c'était prévisible. Mais je ne sais pas si ce gouvernement d'union nationale que vous venez d'évoquer va avoir lieu. Mais bon, on est au Mali, hein. Tout est possible. Hein. Nous sommes tous des Maliens et la marmite, elle boue, mais elle ne se verse jamais, quoi. Je crois qu'on va finir par s'entendre et puis travailler pour le développement de ce pays.
D'accord.
C'est ce que j'espère.
Makan Konaté, faut-il craindre une crise post-électorale?
Mais nous sommes déjà dedans. Je voudrais rebondir un peu sur ce que Paul vient de dire par rapport à ce gouvernement d'union nationale. C'est bien possible. C'est bien possible seulement que Soumaïla a commis, je dirais, une erreur qui n'a pas été appréciée du tout par certains cadres de son parti. Le fait d'aller choisir le président d'un autre parti politique et de l'amener comme directeur de campagne, alors que tu pouvais choisir parmi tes cadres, ça a créé vraiment un problème. Mais ce gouvernement d'union est possible. Et tel que je connais le président, je l'ai connu ça fait très longtemps, mais je ne crois pas qu'il va accepter encore que ceux qui ont accompagné Soumaïla pendant cette période-là, se retrouvent encore dans ce même gouvernement. Peut-être avec de nouvelles têtes, c'est possible, mais pas avec des gens comme les Tchébilin Dramé, les Shogel Koukala Maïga, les Maître Montakatal, ce ne sera plus possible. Ils ont atteint pratiquement, je crois, leur retraite politique. Dans les 5 années à venir, ce ne sera plus possible. C'est la jeunesse qui viendra.
D'accord. Bruno, pensez-vous comme Makan que nous sommes déjà dans une crise post-électorale?
Nous sommes dans une crise post-électorale. Moi, je suis tenté même de dire que c'est une crise post-électorale qui tend à s'aggraver. En tout cas, que Dieu nous préserve de cela. Quand il y a des séries de marches, demain et encore, il y a une marche qui est prévue. Il y a des séries de marches et les éléments qui semblent exacerber un peu la chose, c'est ces derniers enlèvements entre guillemets. Ou bien arrestation, ça dépendra de comment on apprécie la chose, de Paul Ismaël Borro, de Moussa Kimbiri. Dans cette foulée-là, il y a une forme de cafouillage, on ne va pas rentrer dans cela, mais il y a une crise post-électorale. Et je crois que pour bien appréhender la chose, en 2013, juste après les élections, tout le monde a souri dans ce pays-là, quand on a vu le geste qui a circulé sur tous les écrans du monde, le vaincu a lancé le vainqueur pour le féliciter. Du fait qu'on n'a pas observé ça cette année, du fait que cela est suivi de 3 marches déjà, ou bien de 2 marches, la troisième demain, et qu'il y a des dénonciations. Il y a un intervenant dans votre élément de reportage qui disait que ce n'est pas l'opposition qui conteste. Je suis désolé, c'est l'opposition au sens large. Où, je ne sais pas comment on peut interpréter l'opposition. Au premier tour, les résultats étaient déjà contestés. Il y a eu des leaders qui ne marchent pas aujourd'hui, qui ont dit que c'est de la haute couture, c'est des notes qui nous ont été attribuées au lieu de nos résultats. Ils étaient nombreux. Il y avait 16, 17 qui étaient sortis en conférence de presse. Donc il y a une crise. Et je crois que, comme le président de la République, réélu, le dit souvent, aucun sacrifice n'est de trop quand il s'agit du Mali. Je crois qu'il aura à cœur vraiment de pacifier le pays. Sinon, son mandat serait plombé si chaque samedi, des gens doivent être dans la rue. Et dans quel contexte
les législatives pour...
On annonce les dates des législatives. Ça aurait été même mieux si la crise, il y avait eu des tentatives de juguler, de baisser la tension avant l'annonce de ces dates. Est-ce qu'on veut un boycott des contestataires? Et si on boycotte, est-ce que cela permet de sortir de la crise ou bien ça va l'enfoncer? Voilà des interrogations. Je crois que le chef de l'État, garant de l'unité nationale et autres, là, pourra, ne va économiser aucun sacrifice pour sortir le pays de cette impasse. Le pays était en crise déjà, crise sécuritaire, on n'a pas besoin de ça. Et je crois que aucune formule ne sera à évacuer, hein. Même si c'est un gouvernement d'union qui ne dit pas son nom, dans tous les cas, s'il y a des mécontents, pourquoi a-t-il tendu la main? S'il y a des mécontents, on saura comment les recevoir, les calmer par des formules politiques. Les palais de présidence peuvent avoir beaucoup de secrets que nous n'avons pas.
D'accord. Paul Ben, est-ce que vous pensez que les législatives peuvent se tenir dans ces conditions?
Bon, bien sûr. Les législatives, c'est une autre paire de manches. Hein. C'est pas comme la présidentielle, c'est une grosse marmite où tout le monde se retrouve et puis il y a un gagnant. Les législatives, ça, c'est vraiment... C'est un cran au niveau du local. C'est-à-dire, c'est un peu le Mali profond. Ça se gère vraiment... à chacun son coin, quoi. Ce n'est pas comme la présidentielle. Mais comme Bruno le dit, comme tout le monde le souhaite, franchement, qu'on en finisse avec ce bras de fer qu'il y a autour des résultats de la présidentielle. Mais moi, je crois que les législatives vont avoir lieu. J'ai vu certaines personnes s'émouvoir quand le ministère de l'administration territoriale dit que
Oui, les législatives auront lieu, mais dans quelles conditions?
Dans les mêmes conditions que la présidentielle a eu. C'est-à-dire, on a un contexte sécuritaire qui n'est pas très bien. Il faut faire attention. Mais il y a des gens, des hommes et des femmes engagés qui veulent que ces législatives... Parce que vous savez, on a organisé la présidentielle, ça nous a permis de ne pas aller dans le grand saut dans le vide, dans l'impasse. Je crois que les législatives doivent suivre pour que la machine continue, pour que l'État
d'accord. puisse exister. Makan Konaté, est-ce que vous pensez, comme Paul Ben, que les législatives pourront bien se tenir?
Mais pourquoi pas? Je crois qu'il faut que les instruments de travail soient mis en place. Premièrement, il faut que le président soit investi. Après l'investiture du président, c'est les députés. Après les députés, les maires. Donc, forcément, il faut aller vers ça et il faut aller très vite.
D'accord. Est-ce que vous partagez cet avis en 30 secondes?
J'observe quand même qu'il n'y a aucune urgence particulière au cas où les acteurs politiques constatent qu'il y a crise. D'abord, c'est nous, en tant que journalistes, qui notons qu'il y a crise. Maintenant, si les acteurs politiques majeurs constatent qu'il y a crise, il n'y a donc aucune urgence à aller dans ces conditions de crise aux législatives. Parce que pour le président de la République, comme Paul le disait, c'est le peuple, c'est la nation face à une personnalité. Mais il y a des circonscriptions électorales où on ne pourra pas voter. C'est 500 bureaux de vote à peu près n'ont pas pu ouvrir leur bureau de vote à des centres de population. Comment on peut élire des députés dans Koro, dans Douanza, dans Ténankou, Yuaru, etc. la question se pose.
D'accord, et c'est ce qui met fin à ce forum de la presse. Merci à nos invités, Makan Konaté de la radio IKFM, Bruno Segbedji de Mali Horizon et Paul Ben, journaliste indépendant. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Seydou Ndaw. À la régie vidéo Nouhoum Djiré, je suis Mouhamadou Touré. À lundi prochain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri, Halou Dmoundi.
Chenne Beri, Sigi Kafoba.